Entre deux voyages découvertes de notre belle France, Christian Cayol, notre baroudeur de Radio Galaxie, nous a rejoint pour nous faire découvrir le Lot, tout simplement. Bonjour Christian.
Et bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Lot ?
Oh là là, alors là, posé comme ça, je m'attendais à ce que tu fignoles un petit peu mieux le...
Ah non, 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 moi je te laisse tous tes jeux de mots à toi.
Ah oui.
Tu nous parles de l'eau ou de l'hôte de consolation, de l'eau d'exception ou de l'hôte d'exception, comment on pourrait dire.
Mais je sais pas, oui, effectivement, l'eau d'exception ou l'hôte d'exception, oui, et que l'on peut découvrir de plusieurs façons, à pied, à cheval, en bateau ou à vélo. Donc beaucoup, beaucoup de choses, et surtout, comme j'en avais parlé la dernière fois, un riche patrimoine, et puis des belles vallées, des méandres exceptionnels, des belles boucles propices à la randonnée, et avec le plateau du Quercy juste au-dessus. Merci beaucoup le Lot, et en anglais, thanks a lot, pour faire le petit jeu de mots qui va bien pour ma vidéo que vous allez retrouver sur le site Radio Galaxy, parce que tu vas me poser la question.
Bien
on
sûr.
La retrouve où ?
Où ?
Sur mon site perso, Rando VTT Vidéo, vous avez là maintenant l'habitude.
Alors ça va être mauvaise langue, j'ai visionné bien sûr le film, et tout ce qui est attrait au VTT, la plupart du temps j'ai eu l'impression que c'était que de la descente. C'est une impression ou pas ?
Je n'ai pas fait attention à ça, mais c'est vrai qu'au montage, j'évite de mettre des images de montée autant que possible.
Pourquoi ? Les gens tirent la langue, pourquoi ?
Parce que ça va plus doucement. Non, parce que je préfère, je trouve que c'est plus ludique de mettre les images de descente plutôt que des gars qui en, entre guillemets, qui en chient un peu. Et donc voilà, je choisis les images de descente, ouais, c'est vrai.
Et ça donne envie d'y aller, crois-moi. Ça donne envie d'aller faire du VTT, c'est vrai.
C'est vrai, ouais, mais c'est, le but est atteint.
Bon.
Alors, mais, on va commencer si tu veux bien. Il faut se rendre compte que cette région, c'est 10% du tourisme souterrain en France.
Ah bon ?
Absolument. C'est un tourisme qui est très important. Il y a de quoi. Vous avez beaucoup de choix. Mais la grotte que moi je vous propose, c'est surtout, je vous propose d'aller voir Pêche-Merle, si vous ne connaissez pas, certainement Francis, bien sûr,
oui,
connais. Si tu ne l'as pas vu, tu connais au moins ce qu'il y a à l'intérieur. Tout le monde connaît cette frise de chevaux ponctuée, comme on dit, non pas pommelée, ponctuée. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir, encore de nos jours, voir, admirer les véritables peintures rupestres polychromes qui sont d'une époque de 25 000 ans, et de les voir les vraies, pas des reconstitutions.
Comme Lascaux ou autre.
Voilà, comme, oui, comme Lascaux. Voilà. Et il en existe encore quelques-unes, comme Niau, Font de Gaume et quelques autres en Dordogne, où on peut voir les vraies peintures. Maintenant, Niau, c'est 13 000 ans, c'est du Magdalénien. Et quant à la grotte Chauvet, c'est-à-dire la grotte du Pont d'Arc, c'est 37 000 ans, c'est l'Aurignacien, c'est beaucoup plus ancien. Et la grotte Pêche-Merle, c'est 25 000 ans, c'est du Gravessien. Mais ce sont les véritables peintures. Alors, cette frise de chevaux ponctuée, donc tout le monde la connaît ou l'a vue sur des images ou sur des cartes postales. Deux chevaux adossés, où il y a d'autres, il y a des mains, il y a beaucoup d'autres peintures, il n'y a pas que les chevaux. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est la forme de cette roche où sont peints les chevaux. Le rocher a naturellement la forme de la tête d'un cheval. Ils ont peint cette forme, et c'est une tête de cheval extraordinaire, quand on voit ces courbes, les arrière-traînes des chevaux bien ronds, faits d'un seul trait, elle est vraiment magnifique. Quoi.
Ah, c'est presque entre peinture et la sculpture.
Et la sculpture aussi. Ah. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres animaux. Et donc, si vous avez une seule visite à faire dans la région, allez là. Un seul regret pour les amateurs de photographie, passez votre chemin, on ne peut faire aucune image, comme dans toutes ces grottes peintes, on ne peut pas faire de photos. Voilà, c'était absolument interdit.
D'accord.
Alors moi, les images que vous verrez, j'ai quand même voulu mettre des images de grottes, et je suis allé à la grotte La Cave, qui est très belle, mais alors ce sont plutôt des petits laquais, des gours, des concrétions, mais elle est très belle, c'est la grotte La Cave. Là, j'ai pu faire des images.
Ouais. Et qu'on voit sur ta vidéo d'ailleurs.
Voilà, on en voit quelques-unes sur ma vidéo. Alors bon, pour continuer un petit peu l'exploration de ce coin, il y a tous les points de vue, comme je disais, tous les points de vue sur le Lot, avec les boucles et le nombre de méandres, des points de vue remarquables. En particulier, aller à Luzèche, le point de vue de l'Impernal qui s'appelle, c'est un ancien oppidum gallo-romain. Ici, on parle de cingles. Ces boucles, on parle de cingles.
Ouais.
On a une boucle parfaite de 5 km. Qui actuellement, de nos jours, se présente sous forme d'un plan d'eau, destiné aux activités nautiques. Quand j'y suis allé, il y avait un triathlon qui s'y faisait.
D'accord.
Voilà. Mais qui demandait autrefois, à l'heure de Gabard, on va en parler, on va un petit peu en parler après, ça a demandé 2 jours pour faire tout le cingle, le tour du cingle. Et donc les Gabards, le premier jour, faisaient relais à l'usage, et pendant le jour suivant, faisaient tout le tour du méandre, du cingle, et recouchaient à l'usage de l'autre côté du cingle. Côté. Ah ouais, voilà. Et oui, ça fait 5 km. Ah ouais. Et en 1840, à l'endroit le plus étroit de l'isthme, il fait 100 mètres.
Ah oui, c'est vraiment...
C'est vraiment... Ah. Alors que la boucle fait 5 km. Ah. Et en 1840, un canal fut percé au point le plus étroit et il a été rebouché entre 1940 et 1950. J'ai pas la raison. Et sur les hauteurs, je vous signale aussi un autre point de vue qui est accessible par une petite route. On y arrive à 100 mètres, hein. Un point de vue remarquable qui bute sur des falaises, entouré de vignes, Serral Bas. C'est pas bien loin de là. Et des points de vue, vous en avez un peu partout. Ah.
Et on voit à un moment donné sur ta vidéo aussi une sorte de, je dirais, de chemin de halage avec donc dans la roche comme une maison troglodyte.
Oui, on va y venir.
Ah bon, d'accord. Excusez-moi de vous devancer, cher baroudeur.
Oh, bah, t'as bien remarqué, je vais en parler, oui.
D'accord.
Oui, oui. Alors, avant cela, je voulais signaler aussi que, bien sûr, bon nombre de bastides de villages remarquables qui sont classés, et en particulier Saint-Cyr-la-Popie, le visage préféré des Français, un des villages, mais bon, et avec des ruelles étroites, escarpées, des maisons médiévales du XIVe siècle, au toit pointu. Et là aussi, on a un point de vue exceptionnel, le Lot est 80 mètres plus bas, sur le passage des Gabards.
D'accord.
Et on va y venir là, voilà, oui.
Oui, et c'est aussi l'aquarelle de Nadine qui clôturera la vidéo.
Exactement.
Mais on y reviendra aussi.
On y reviendra aussi.
Bon, alors, on va où alors ?
Les Gabards sur le Lot, justement, ouais. En bas de Saint-Cyr-la-Popie, ouais. On voit passer des Gabards.
Alors, qu'est-ce que s'appelle les Gabards ?
Les Gabards, c'est bateaux plats qui naviguaient sur le Lot au 18e et au 19e, sur le Lot, la Garonne, un petit peu partout. On les appelle Gabards, mais sur la Dordogne, on parle de courreaux.
D'accord.
Voilà, qui transportaient des personnes et puis tout un tas de... On va revenir dans le détail de ça. Alors donc, ce tourisme promène couillon, où on prend le ticket, on monte dans une Gabard à moteur, une fausse Gabard bien sûr, moderne, et elle nous fait remonter le Lot jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie, en contre-haut, entouré de falaises, mais aussi ça nous fait remonter quand même le temps. Parce que, en même temps qu'on avance, le batelier explique cette historique-là. Et alors, donc ça c'est à Bouziès. Et là, effectivement, il y a un chemin de halage. Et comme tu disais, tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce que c'est ces rochers sculptés ? Ce chemin de halage était impraticable. La falaise tombait à pic dans le Lot, et il a fallu creuser un tunnel pour que les haleurs tirent les cordes de la cordelle. En 1847, dans la roche, sans explosifs, à l'époque il n'y en avait pas, sur 300 mètres de long, 2 mètres de haut, ce passage a été créé complètement pour voir tirer les Gabards. Et il y a quelques années, c'est un Toulousain qui a sculpté un bas-relief avec des poissons, voilà. Des vagues, voilà. Et il s'appelle Daniel Monnier, c'est un Toulousain. C'est un endroit remarquable, pittoresque, où le GR passe, que l'on peut faire donc à pied, à VTT. On y rencontre toujours du monde. Et en ayant pris la Gabarre et ma caméra, le batelier approche la Gabarre très très près de ce chemin, et on pourrait presque descendre. Et donc là, j'ai fait des images que je ne pouvais faire que depuis le bateau.
D'accord. Alors, c'est où ce lieu, tu le rappelles ?
Bouziès.
Bouziès.
Oui.
D'accord.
Voilà. Alors, cette navigation sur le Lot, c'est toute une histoire. Je pense que ça t'intéresse. Moi, ça m'intéresse beaucoup de comprendre un petit peu tout l'historique, comment ça se passait et tout ça. Alors, je vais vous en dire 2 mots. Il fut un temps où la remontée, au-delà de Cahors, elle était absolument impossible. Une époque où les maîtres de bateaux se défaisaient des embarcations en fin de descente. C'est-à-dire que ils descendaient les bateaux, rudimentairement, et puis ils les foutaient au feu. Voilà, ils s'en défaisaient.
Voilà. Carrément.
Ils ne les remontaient pas. Et à la fin du 19e, apparurent des gabards plus solides, pontés et à fond plat. En 1875, sur le Lot, on en dénombre 60. Et la navigation, à cette époque, remontait jusqu'à Entraigues sur Truyère. Ça représente par rapport à Aiguillon. Aiguillon, c'est la confluence entre le Lot et la Garonne. Mmh. Donc depuis Aiguillon jusqu'à Entraigues sur Truyère, ça représente plus de 200 km qui étaient à l'époque navigables. Ça devait y avoir des rapides, mais malgré tout, le transport se faisait. Le halage, il s'est effectué à la remontée par les hommes, les bœufs ou les chevaux. Et il fallait une bonne vingtaine d'hommes pour aller une gabarre. Par exemple, 5 km, c'était l'espace entre deux relais. Ouais. Et il fallait une bonne journée. Donc, pour 20 hommes, attirer une gabarre entre deux relais. Oh. Il en fallait une centaine pour des secteurs délicats. Et les hommes, pour garder leur travail, s'opposaient à l'utilisation des bêtes, bien sûr. La concurrence, elle était importante. Et ouais. Parce que bien sûr, c'était tirer les gabarres, c'était très dangereux pour les hommes quand même. Il y a eu beaucoup d'accidents. Et un arrêté préfectoral de 1812 sur les conditions de halage stipule que ça se ferait uniquement par les bœufs, sauf en cas de nécessité absolue, quand les bœufs ne pouvaient plus passer. À ce moment-là, les hommes prenaient le relais. Par coup, c'était impraticable. Bon, ça s'est dit.
La transition, pas mal.
Le trafic était quand même très dense. Par exemple, sur la Dordogne, on a des relevés des bureaux de navigation. Et en 1858, il y avait plus de 400 bateaux qui naviguaient. Deux ans plus tard, c'était presque 600 bateaux. À Bergerac, alors là c'est plus l'autre, mais c'est pas bien loin, on voit passer 180 000 tonnes de marchandises en 1853 et 216 000 l'année suivante, pour dire que c'était croissant et important. Ouais. La descente se faisait bien sûr à la rame. Les bateaux pouvaient naviguer jusqu'à Bordeaux. Alors ça transportait essentiellement des minerais, du charbon par exemple, et des produits agricoles, du vin, des produits de construction du bois, mais aussi des mérins. Les mérins, c'est les pièces en bois destinées à la construction des fûts. Le Lot, c'était une voie d'eau, mais c'était aussi une route du vin. À la remontée, le fret était surtout constitué de sel, des produits des colonies, sucre, épices, café, des poissons séchés, essentiellement la morue. Alors, à la remontée, la morue, on l'a laissée tremper dans l'eau derrière le bateau pour la dessaler. De là est venu dessaler. Quand on tombe du bateau, on dessale.
Ah d'accord, tu vois.
Bien. Et alors, c'est l'origine de certaines recettes régionales, comme l'estofinado, que je ne connais pas, mais je sais que...
Je l'ai goûté, c'est très bon.
Ah.
Ça pue, mais c'est très bon.
Vous voyez, mais la morue. Alors, l'apparition du chemin de fer va entraîner la diminution du trafic fluvial. Ouais. C'est ce qui a été la mort. Hein. Alors, certains bateliers, ils vont se doter de gabarres à moteur. Et d'autres, pour poursuivre leur activité, ils vont se spécialiser dans l'extraction du gravier de la rivière. Ainsi, le Lot a été déclassé des voies navigables en 1928. Parce que c'était plus entretenu et donc ça a été déclassé. Le Lot ensuite a été refaçonné à partir de 1945 par l'hydroélectricité et la construction de barrages hydroélectriques et de microcentrales. Et le Lot devient complètement abandonné à la navigation. Il a fallu attendre 1980, la remise en navigabilité du Lot. Et elle apparaît alors comme un projet majeur qui a des retombées économiques, surtout maintenant, sur l'ensemble du bassin pour le tourisme. Mmh. Donc actuellement, la navigation est de nouveau possible sur le Lot, entre Aiguillon et l'Arnagol, en amont. L'Arnagol, c'est environ 40 km en amont de Cahors, mais on est quand même bien loin d'Entraigues sur Truyère, comme ça se faisait avant. Ce qui représente plus que 60% de la capacité à naviguer avant 1926.
Ouais. D'accord.
Le rail, inauguré en 1886 entre Cahors et Cap-Donac, et cause le déclin, comme je disais tout à l'heure, du trafic fluvial. Mais lui aussi, il va lui arriver son manque de rentabilité et la fin de son activité en 1980. Alors aujourd'hui, on a du tourisme fluvial qui redonne à la région une vie, mais aussi une association qui fait passer le tourisme ferroviaire annuel de 47 trains en 1992 à 217 trains en 2002. Je n'ai pas les chiffres plus récents que ça, mais on voit... l'évolution du tourisme aussi bien fluvial que ferroviaire, ce qui représentait en 2002 1500 voyageurs par an pour le train. La boucle est bouclée. Alors, à l'autre bout du Lot, on a la pierre à Figeac, la fameuse pierre de Rosette que beaucoup de personnes connaissent. Elle est exposée depuis 1802 au British Museum. Et à Figeac, on a une immense reproduction de 14 mètres par 7, sculptée dans du granit noir, avec la traduction en français. C'est accessible sur la place des Écritures, on peut la voir. C'est un fragment de stèle gravé de l'Égypte ancienne qui comporte trois versions du même texte et ça a permis le déchiffrement des hiéroglyphes. C'est Champollion, au 19e siècle, qui a travaillé là-dessus. D'autres, bien sûr, aussi. Il n'y a pas eu que lui. Hein. Et c'est le texte en grec qui a été le point de départ de sa traduction. Le deuxième texte, c'est un texte en démotique, beaucoup plus compliqué.
Je pense, oui.
Et puis le troisième texte, bien sûr, c'est les hiéroglyphes. Alors, il a fallu qu'il mette en relation l'équivalent des hiéroglyphes avec le grec. Et c'est quand Champollion, il a réussi à définir les caractères phonétiques de Cléopâtre. Et ensuite, il a construit un alphabet de caractères phonétiques quand il a identifié les hiéroglyphes de Ramsès et Thoutmôsis. Comme il était né à Figeac en 1790, la ville de Figeac lui rend hommage en exposant donc cette pierre de Rosette et le musée des Écritures qui est juste à côté.
D'accord. Oula. Là, on va plus loin, on va jusqu'en Égypte, c'est pas mal.
Un petit peu, d'une certaine façon. Mais je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus local, avec un petit patrimoine local. En 1852, en subventionnant la construction de l'avoir, ça a en fait créé de nombreux. Et ces lavoirs étaient devenus un haut lieu très social. Entre 1800 et 1950, les lavoirs ont prospéré dans les villages. Et certains, et c'est là où vous voyez mes images sur ma vidéo, ont la particularité d'avoir une pierre en V. Donc les femmes étaient face à face, très commode pour faire lavage et surtout pour papoter.
Oui, pour papoter, oui.
Voilà. Donc vous en voyez sur ma vidéo. On les appelle les lavoirs papillons. C'est pour assez ça. Original et on en voit par là assez fréquemment. Et c'est témoin d'un passé pas si lointain que des générations pas très âgées encore ont connu et ont vu les femmes laver. On connaît nos grands-mères raconter. Bon, voilà. Et de nombreuses communes, heureusement, maintenant, tentent de les préserver et de les entretenir. C'est l'arrivée de la machine à laver en 1950 qui a sonné leur décadence.
Ouais.
Donc voilà, maintenant c'est plus que des vestiges de
civilisation. Ouais, mais voilà, mais ça fait partie du petit patrimoine français. Et voilà,
exactement. Alors là, autre chose, géographiquement un petit peu excentré, mais il faut faire le détour. On est un peu plus loin de la rivière Lot, mais bon, il faut aller à Cadouin. Alors Cadouin, c'est une abbaye cistercienne qui possède un cloître extraordinaire, d'origine romane, reconstruit au 15e et au 16e siècle. Alors ici, ce sont des colonnes richement sculptées, des voûtes gothiques variées et sophistiquées. Mais c'est extraordinaire. Je vous le conseille. Le cloître de Cadouin. Et puis, de nombreux châteaux. Alors là, moi, j'en ai retenu 4. Et je les ai choisis parce qu'ils sont complètement différents les uns des autres. Alors le premier, c'est le château fantastique de Gavaudin. Il domine un village perché sur une sorte de gros rocher plat en calcaire au-dessus du village. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est l'accès. Autrefois, pour y accéder, il fallait rentrer dans une grotte et grimper par une échelle pour arriver à la plateforme. Parce qu'au-dessus de cette grotte, il y avait un puits vertical, une fissure, et qui a été agrandi. Ça a été un puits de 3 mètres de diamètre. Ils mettaient une échelle pour grimper. Et ensuite, ils ressortaient l'échelle. Ça, c'était au tout début. Mais au XVIe siècle, des marches au début du puits suivies de barreaux de fer ont été construits pour accéder là-haut. Et c'est au XXe siècle qu'un escalier très vertical, qui se termine à 1,50 m de diamètre, taillé de pierre pour accéder à la cour et au donjon. Alors, ce château, il a son originalité aussi, c'est que ce fut le premier lieu de refuge des tout premiers hérétiques, que l'on a appelés les cathares. Les seigneurs, ils se sont illustrés à cette époque-là dans une résistance occitane, bien avant les croisades des Albigeois. Le catharisme est né dans la Genée. Il a apparu dans la Genée vers 1018. Donc on est 200 ans avant la croisade des Albigeois, pratiquement. Quoi.
Ah ouais.
Bon, c'est sûr. À cette époque-là, on les appelait les manichéens. Manichéens, ça vient de Manès, ou Mani, un prophète de la paix et de la non-violence, perse, du 3e siècle, mort, persécuté et supplicié. Une philosophie tolérante, humaniste, visant à réconcilier les religions de l'époque. Pour lui, il n'y avait que deux possibilités, le bien, le mal, les ténèbres ou la lumière. 1000 ans plus tard, l'accusation de manichéisme conduisait encore au bûcher. En 1147, Saint Bernard s'étonne que les basiliques soient sans fidèles, les fidèles sans prêtres, les prêtres sans honneur, et qu'il n'est resté plus que quelques rares chrétiens sans Dieu. La réponse, elle vient de l'opposition des pratiques. Les offices sont en latin, personne ne les comprend. les prêtres ne travaillent pas, le clergé vit dans l'opulence, alors que, côté Qatar, les parfaits travaillent, vivent pauvrement, comme la population. Une partie très importante de la population a donc basculé vers le qatarisme, et pour les en dissuader, les premiers bûchers sont embrasés vers 1209 à Agen. Donc ça, c'est le premier château. Le deuxième château, je vous parle du château des Anglais, ou du Diable, à Cabreret. Alors là, c'est un ouvrage semi-troglodytique de 90 mètres de long, 30 mètres de haut et 5 mètres de large. Il est très étroit. Et les murs, ils font entre 2 et 3 mètres à leur base, et ils sont protégés par l'encorbellement de la falaise. Il a été pris et repris plusieurs fois. Il a servi de repère aux grandes compagnies de routiers, au service des Anglais d'Aquitaine, qui pillaient la région pendant la guerre de Cent Ans, à partir de 1380. Il ne se visite pas, mais on le voit depuis la route.
D'accord.
Et puis, il n'y a pas grand-chose à voir à l'intérieur.
Il ne se visite pas du tout?
Non.
D'accord.
Non. Le troisième château, je vais vous parler de Bonaguil. C'est une ruine impressionnante d'un des plus beaux châteaux forts de France. Malgré cela, en pleine saison, vous n'aurez pas l'affluence de Carcassonne. Pour moi, qui redoute le monde, eh bien, ça a été parfait. Mais il est vraiment à voir. Et enfin, le dernier château que j'ai choisi de vous parler, c'est le château de Sennevières. Alors, si vous aimez le débit monotone d'un guide lambda, les riches dorures, n'y allez pas. Par contre, si vous aimez les panoramas sur la vallée et le discours parfois décalé, mais toujours intéressant, du maître de séance, si vous aimez l'authenticité d'un lieu toujours habité, réservez une bonne heure et demie de votre temps pour visiter par le menu cette demeure, certes remaniée à bien des époques, mais chargée d'histoire, avec un grand H, et de petites histoires aussi. Écoutez bien celle du cabinet d'alchimie. Le propriétaire va vous en parler, qui date du XVIe. Il est singulier et insolite. Observez bien la balade initiatique des fresques rurales. Ici, le cercle d'érudits y cherchait la pierre philosophale, élixir de jouvence, mais aussi la transmutation des métaux. À voir et à écouter. Et pour terminer cette émission, Cahors et son célèbre et unique pont du XIVe, le pont Valentré, classé patrimoine mondial. Vous verrez une belle image sur ma vidéo, au lever du soleil, le matin, très beau. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses tours fortifiées, les mâchicoulis, son diable et sa légende, et sa barbacane et ses fortifications. Ah mais aussi j'oublie, à Cahors,
ah oui,
l'abbaye, son cloître gothique flamboyant du XVIe. Et, toi qui es spéléo, la fontaine des Chartreux, de type vauclusienne, deuxième source de France, qui à l'étiage coule de 2 mètres cubes au seconde, ce qui est très peu, mais qui peut passer à 50 mètres cubes au seconde en peu de temps, par temps de pluie. Elle alimente la ville en eau potable, et cette résurgence, elle est pratiquement verticale. Elle a été plongée en 1998 jusqu'à moins 138 mètres. Je n'ai pas trouvé de source plus récente pour savoir si ça a été... Mais c'est arrêt sur Yé, c'est-à-dire que bon, on n'a pas été atteint le fond ni la remontée du siphon. Donc je n'ai pas d'autres renseignements, tout ça, mais de rien que c'était deuxième source de France, c'est quand même important.
Ouais, c'est énorme.
Énorme. Mmh. Voilà, ouais. Un mot sur la rando, tu me parlais du VTT, il n'y a que des descentes, mais
oui.
Ce que tu t'es pas rendu compte, c'est que la météo, elle a été épouvantable.
Oui, facile.
Alors on est parti dans la grisaille, une petite accalmie nous a fait entrevoir une éclaircie, je pensais que ça allait se mettre au soleil. Mais ensuite, pendant les 15 premiers kilomètres, c'était comme ça, tout se passait très bien, mais ensuite ça a été autre chose. Un véritable déluge ininterrompu jusqu'au soir, c'est-à-dire que les images que l'on voit, je les ai faites sur 15 kilomètres et j'ai pris à peu près les plus potables que j'ai tirées, parce qu'après c'était plus possible de filmer. Donc voilà, la vidéo a été faite dans le coin exactement de tout ça, au bord du Lot. Et puis la vidéo qui se termine...
Par une aquarelle.
L'aquarelle de Nadine.
Voilà, de Saint-Cyr à la Popie.
Un souvenir de Saint-Cyr à la Popie, réalisé par Nadine, voilà.
Que je conseille de voir, ouais, parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant comme elle dessine. Ouais. Il y a une précision, pour une aquarelle, je trouve qu'il y a une précision qui est... Voilà. Mais ça fait partie de son art.
Tu as raison. Ouais. Des aquarelles, je crois qu'elle en a plus de 1000,
ouais,
qu'elle en ramène 3 ou 4 ou 5 deux fois de chaque voyage depuis le temps qu'on fait ça. Elle a de nombreux carnets.
Et ça fait combien de temps que vous voyagez, que vous découvrez la France comme ça?
Dans ce style-là, ça fait 7-8 ans, à raison de une par mois, ça fait beaucoup.
Oui, c'est énorme.
On commence à connaître un petit peu, oui.
Oui. Mais ce n'est pas fini, cher auditeur, et il nous en réserve encore de bonnes, notre cher Christian.
Et en particulier, le mois prochain,
c'est quoi?
Je vous amène voir les châteaux de la Loire.
Ah.
Et vous êtes surpris, pas la Loire que vous connaissez.
Ça ne m'étonne pas de toi.
En attendant, comme je dis, bougez mais bougez en France.
Voilà, merci
et
Christian.
Puis, au revoir et merci Francis.
Et au mois prochain.
Au mois prochain, salut.
Salut.